Oui, il est bien évident que les bandes magnétiques restent dans notre phonothèque et que si l'usage devait y avoir un jour de votre parole, ça ne serait qu'après votre accord. Et c'est une pratique constante dans la politique du musée, y compris quand nous interrogeons les gens dans les campagnes pour leur faire raconter des contes ou des légendes, que c'est à peu près pareil. Alors, est-ce que pour commencer, si vous voulez, on pourrait parler de vous, c'est-à-dire quel a été un petit peu votre chemin pour arriver à la Grande Chartreuse. Vous êtes entré quand?
Je suis entré le 1er septembre 66. Il faut distinguer entre le moment où je suis resté en tant que novice et jeune préfet, et après le temps où je suis resté comme familier, parce que j'ai fait deux choses très différentes au monastère. Donc le parcours ordinaire de quelqu'un qui rentre pour être père. C'est-à-dire, je suis resté 2 mois postulant, 2 ans novice et 3 ans jeune prophète. La suite de quoi, je n'ai pas continué pour des raisons qu'on pourra peut-être voir après. Et je suis resté comme familier pendant encore 5 ans et demi.
Qu'est-ce que familier?
Alors, familier, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce sont des gens qui sont dans le monastère, mais qui ne mènent pas la vie monastique à proprement parler.
Ce sont des frères.
Non, même pas. Non. On en trouve enfin, dans la plupart des Chartreuses, il y en a un ou deux. Ils font en général des petits travaux au portier ou s'occupent du poulailler ou des choses comme ça. À la Grande Chartreuse, il y en a 4 ou 5. Ce sont des gens qui se sentent. Un certain attrait pour la vie monastique, mais qui ne se voit pas dans un ordre institutionnel, avec les contraintes que ça impose. Ou qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas les capacités physiques ou psychiques pour entrer dans l'ordre.
Je ne connaissais pas ce statut. Et ce n'est pas un statut qui intervient dans la règle.
Ah non, ce n'est rien du tout. Ça ne fait rien. Ce n'est absolument. Ils sont considérés comme rien du tout. On n'en parle nulle part. Ils sont là, ils vivent dans le monastère. Mais ils n'ont, si on veut, aucune contrainte. On pourrait dire qu'ils sont même salariés, si on veut. Ils ont un tout petit salaire qui est. Pour être. Pour. Être à la sécurité sociale et éventuellement avoir une retraite s'ils partaient après, mais ce n'est pas. Ils ne font pas partie de l'homme.
Et vous aviez des fonctions particulières?
Alors, oui, je demandais à rester pour m'occuper de l'offset. Parce qu'à ce moment-là, en 71, ils faisaient un gros travail de remise à jour des documents de la Chartreuse, et en particulier de remettre en français ou. En espagnol, en italien, tous les textes latins qui devaient se dire en langue vernaculaire. Et donc il y avait un gros travail d'imprimerie pour l'usage interne de l'ordre. Et un père avait commencé à faire ça, mais ça ne l'intéressait pas spécialement. Et la charge de travail devenait trop importante. Et j'avais demandé, moi, au moment où je quittais le cloître, de faire ce travail-là pour le remplacer. Et je suis resté 5 ans à faire ce travail d'offset.
Vous étiez quand même considéré comme un laïc?
Oui, j'étais laïc. J'étais considéré comme un employé, si on veut, mais je vivais dans le monastère.
Donc vous n'aviez pas une cellule
Je n'avais pas une cellule au cloître, mais j'avais l'équivalent en dehors, parce que les bâtiments sont vastes, c'est facile de trouver un coin qui correspond à une cellule.
Donc ça fait combien d'années passé à la Grande Chartreuse fait...
J'étais du 1er septembre 66 jusqu'au mois de mai 77.
Ça fait 11 ans.
Presque 11 ans. Oui.
Presque 11 ans. Oui. Et pendant tout ce temps-là, vous êtes resté dans cette chartreuse-là.
Ah oui, non, je n'ai jamais été ailleurs.
Mais à partir du moment où vous n'étiez plus au cloître, vous pouviez sortir.
Oui.
Vous sortiez déjà.
Je pouvais sortir, j'aurais pu prendre des vacances. En fait, je suis quand même tout le temps resté. Je sortais pratiquement pas. J'allais au lieu de me promener à pied, j'allais quelquefois en vélo assez loin dans la montagne, mais autrement, je ne suis jamais sorti.
Vous n'êtes jamais venu en ville du temps où vous étiez. Là, c'était vous qui vous imposiez.
Ah oui, c'est moi qui m'imposais. On n'imposait absolument rien. J'étais laïque. D'autres venaient à Grenoble, par exemple, pour faire les courses. C'était souvent même le rôle du familier, justement, pour éviter de déranger les pères, que ce soit des familiers qui viennent faire les courses à Grenoble. Mais moi, j'avais mon emploi qui était à l'intérieur, qui était de faire de l'offset, et on ne m'a jamais demandé de venir à Grenoble.
Vous étiez originaire de la région grenobloise ?
Non, des Deux-Sèvres.
Des Deux-Sèvres. Vous étiez venu des Deux-Sèvres à la Grande Chartreuse ?
Oui. Vous n'étiez pas venu à la... Et puis après, même une fois sorti, enfin, je tenais à rester dans la région. C'est comme ça. Oui. Maintenant, je suis à Grenoble.
Est-ce qu'on peut vous demander plus profondément quel peut être cet attrait pour un jeune homme ? Vous étiez jeune à l'époque. Peut-être encore, un peu moins. Et quel peut être l'attrait que représente la vie monacale ? Quel âge aviez-vous en 66 sans être indiscret ? Vous aviez 20 ans ?
23 ans.
23 ans. Et que peut représenter cet attrait pour un jeune homme de 23 ans ?
Cet attrait est souvent assez spécifique. Hein. Ceux qui viennent, c'est pas qui, la plupart du temps qu'ils cherchent leur voie à différents endroits, c'est souvent ils viennent pour la Chartreuse et pas pour autre chose. Ce qui est assez caractéristique d'ailleurs, c'est que quand ils sortent, enfin quand ils ne restent pas, la plupart du temps ils ne vont pas dans un autre ordre.
Donc on peut pas dire que
c'est pour la Chartreuse,
vous étiez
pas pour autre chose.
Attiré par la vie monacale en général.
Non, je n'aurais été nulle part ailleurs.
Vous n'auriez jamais été dans un autre ordre.
Non.
C'est directement donc vers finalement un ordre peut-être même le plus difficile des ordres, enfin moins des plus difficiles.
Oui. Difficile, c'est peut-être pas le mot qui convient. C'est peut-être austère, mais quand on sent que c'est là qu'on doit aller. Je pense pas que ce soit tellement difficile. Et l'adaptation, surtout quand on est jeune, se fait très facilement. Enfin, personnellement, je n'ai connu aucune difficulté d'adaptation.
À un moment donné, quand même, vous les avez connues, ces difficultés, puisque vous avez quitté le cloître.
Oui, mais ça, c'est pas pour s'adapter à la vie monastique. C'était... Oui, c'était...
C'était plus l'enfant. Et est-ce que... Bon, vous me dites qu'effectivement la notion de difficulté n'est pas très bonne, parce que quand on a choisi, les difficultés n'apparaissent sans doute pas. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'il a fallu faire des renoncements, enfin renoncer à beaucoup de choses au moment où vous avez passé la porte de la Grande Chartreuse ? Quelles étaient les choses que vous laissiez derrière vous dans la vie, dans le monde ?
Ou que vous vouliez laisser.
Ou que vous vouliez laisser.
C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est pas tellement ce qu'on laisse, c'est ce qu'on trouve là où on arrive. Certaines personnes, par exemple, trouvent que c'est dur de jamais manger de viande. Je pense que c'est un détail qui n'a jamais fait problème. Même le lever de nuit, se lever tous les jours, toutes les nuits, n'est pas une réelle difficulté.
Et quitter le contact avec le monde complètement pour une vie d'ermite.
Oui. Non, je n'ai pas vu de. Je pense pas que ça ait été très difficile. Du moins pour moi, pour certains, peut-être que ça peut l'être.
Nous essayons d'imaginer avec nos têtes qui sont sans doute. En tout cas différentes. Vous saviez en rentrant que vous ne verriez plus d'enfants, que vous ne verriez plus de femmes, c'est vrai aussi, de gens rire, de gens faire la fête, de gens jouer. Est-ce qu'on pense à tout cela quand on rentre ? Quand on passe.
Non, je ne pense pas. D'ailleurs, vous semblez dire que la vie, ça doit être triste dans le monastère. Du fait qu'on ne voit personne rire d'enfants, tout ça, en fait, la vie n'est pas triste du tout.
Oui,
austérité n'est pas synonyme de tristesse.
Et comment peut-on percevoir, quand on est, cette notion du désert, quand on est à l'intérieur de la Grande Chartreuse? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est cette immensité désertique que l'on a autour de soi et qui nous protège ou nous enferme? Ça existe autour de la Grande Chartreuse, ce désert, on le sent?
On le sent à l'intérieur, oui. On sent d'ailleurs peut-être trop en été la présence du monde autour avec tous les touristes qu'on entend derrière les murs, oui. Mais le silence, c'est un peu l'élément dans lequel on évolue, dans lequel on apprend à évoluer, si on peut dire.
C'est vrai qu'on est quand même appelé dans notre société à communiquer, à communiquer en plus avec la parole. Et là, on a, enfin, nous qui ne sommes jamais entrés à l'intérieur, on a l'impression justement de supprimer justement ce moyen de communication. C'est ça qui nous paraît un peu pas artificiel, mais difficile.
Oui.
Et travailler les services photo. Excusez-nous. Et est-ce que vous pouvez nous dire, alors à l'envers de ce qu'on vient de dire, on essayait de vous faire dire un peu ce que vous perdiez, mais apparemment c'est une notion qui ne vous apparaît pas spontanément. Et qu'est-ce que vous avez trouvé en rentrant à la Grande Chartreuse? À titre individuel, hein, comment il y a une.
Ce que j'allais chercher, c'était une recherche donc de Dieu dans ce milieu particulier fait de à la fois de solitude et de vie communautaire. Malgré la solitude, le Chartreux n'est pas isolé dans sa cellule, il fait partie d'une communauté et plus encore au noviciat qu'après, il a des contacts avec le père maître, un peu avec les autres novices. Et il y a aussi quand même trois rassemblements par jour de la communauté à l'église, qui, même si c'est pas une communication entre deux personnes, est quand même un lien communautaire qui est une certaine communication quand même dans le une expression commune qui est, je crois, une certaine communication.
Et toute cette période de formation, alors est-ce que progressivement on apprend à vivre la solitude ou est-ce que on vous met directement dans une...
Ah, non, la mise en cellule se fait dès le premier jour, hein, ce n'est pas progressif.
Mais peut-être la règle est plus souple pendant les premiers temps?
Pas tellement plus souple, je ne pense pas. Oui, il peut se faire que les premiers temps le permettent de ne pas aller à l'office de nuit ou différentes choses comme ça. Mais non, de façon générale, celui qui rentre est directement mis dans le bain. Et d'ailleurs, souvent, il a fait déjà une ou deux, plusieurs retraites auparavant. Oui. Il est déjà à peu près dans les conditions, dans les mêmes conditions que par la suite. Sauf que le père maître le visite assez souvent pour justement discuter avec lui, voire essayer de de voir si ça correspond. D'une part, à ce que lui attend et à ce que les Chartreux attendent de ceux qui rentrent. Et si au bout de, donc de quelques semaines de retraite, le permet estime qu'il est apte, on le met directement en cellule lorsqu'il revient.
Et vous, vous parliez latin avant d'entrer à la Grande Chartreuse, est-ce que le latin, c'est une langue qu'on utilise ?
Le latin n'est pas utilisé dans la conversation. C'est la langue liturgique.
Uniquement ?
Oui. C'était, actuellement, je crois que c'est bien assoupli, mais... donc, autrefois, quand je suis rentré, donc toutes les conversations étaient en français, mais les lectures et l'office à l'église et même en cellule étaient en latin. Donc il fallait quand même connaître le latin pour pouvoir lire. Mais actuellement, je pense qu'ils sont beaucoup plus souples. Et même les études après, pour ceux qui faisaient les études en vue du sacerdoce, étaient en latin. Quand je suis arrivé, il venait de faire les cours, de mettre les cours en français, mais peu de temps avant, même le professeur s'exprime en latin. Il fallait répondre en latin, justement pour acquérir une bonne connaissance du latin. Actuellement, je pense que... Enfin, à l'église, les lectures sont en français. Au réfectoire aussi. L'office se récite en français en cellule. Le latin doit servir juste pour les offices chantés.
Donc il y a quand même une modernisation.
Il n'y avait pas des pères étrangers dans la Chartreuse, dans votre pays ?
La Grande Chartreuse aussi, il y a souvent eu des passages de pères qui venaient d'autres Chartreuses. Et j'en ai vu qui venaient de Colombie, d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, pas mal. Parce que avant qu'il y ait une chartreuse aux États-Unis, les novices venaient à la Grande Chartreuse. Donc j'en ai connu 5 ou 6. Mais ils ont en général plus facilité que les Français pour les langues. Ils se mettaient très bien au français.
Et durant cette formation, durant ces longues années de formation, les novices sont mêlés aux pères, enfin suivre la même règle. Participent avec eux aux offices ?
Oui, les offices sont absolument communs dès le début. La seule différence, c'est pour la récréation du dimanche et le spassiment, la promenade hebdomadaire, où c'est séparé. Maintenant, je ne sais pas exactement où ils en sont. Enfin, quand j'y étais, c'était comme ça.
C'est-à-dire que les novices sont à part et les pères... Voilà.
Alors, les novices avaient leur groupe avec le père maître et les autres pères.
Il y a une justification à cette séparation
ou... les mauvaises langues disent que c'est pour ne pas contaminer les novices.
Non, mais. Pourquoi
leur donner de mauvaises langues ?
Mais non, je pense. Je ne sais pas la justification exacte.
Que les pères sont quand même les modèles pour les novices.
Oui, mais peut-être qu'on ne voulait pas justement, c'était plutôt l'inverse au départ, on ne voulait pas que les pères voient défiler sans cesse des têtes nouvelles, parce que souvent, moi, des novices, j'en ai vu passer plusieurs dizaines, je crois. Il n'y en a pas beaucoup qui restent.
Oui. Ah oui.
Et des retraitants encore plus. On peut dire en gros que pour 1000 personnes qui écrivent, il y en a 100 qui viennent faire des retraites et 10 qui viennent comme novice et 1 qui fait profession. C'est à peu près cette proportion.
Mais il y a autant de demandes au début ?
Oui, mais enfin, de demandes dans un sens vague, des gens qui demanderaient plutôt des renseignements. Je pourrais dire à ce moment-là, sur 1000, le permet de faire un tri et on admet une centaine pour faire pour venir faire des retraites. Surtout en période estivale, il n'est pas rare de voir 3 ou 4 retraites à la fois, qui reste 15 jours.
Tu viens de passer les vacances ?
Oui, il vient de voir ce que c'est. Mais c'est facile en général de discerner ceux qui ont une chance de revenir des autres. Au premier coup d'œil, on les repère.
La moyenne d'âge des novices est assez jeune.
Oui, moi, je pense que quand j'y étais, ça devait être autour de 23-25 ans. Maintenant, peut-être qu'ils auraient tendance à les prendre un petit peu plus vieux pour qu'ils aient mieux l'expérience de la vie, peut-être. Les prendre aux alentours de la trentaine. Il fut un temps au début du siècle où ils prenaient surtout des anciens curés. Et la moyenne d'âge était assez élevée.
Est-ce qu'on peut imaginer quelles sont les raisons, là je parle plus de vous au titre personnel, mais en général, qui font qu'il y ait autant d'échecs chez les novices?
C'est un mode de vie qui est très particulier. Je crois que c'est... Même si on se sent appelé à ça, il faut encore pouvoir y persévérer, c'est ça. Y rester quelque temps, c'est une chose, y rester toute sa vie, c'est quand même autre chose. Et donc, lorsque dans un autre ordre, les gens sont bien intégrés dans une communauté, participent activement à une vie communautaire, il doit être plus facile, je pense, de se maintenir que dans une vie solitaire où la vie communautaire est quand même assez réduite.
Donc vous pensez qu'il faut des dispositions de caractère pour pouvoir réussir?
Oui, sûrement. De volonté. La volonté, oui, mais ceux qui se butent trop, ceux qui veulent trop arriver par la volonté, ont des échecs souvent plus cuisants. Oui, il y en a qui sont sortis en assez mauvais état parce qu'ils voulaient tenir quand même. Oui. Ils sont obligés de se faire soigner en maison de repos ou en asile psychiatrique.
Mais un état donc alors moral ou physique? Mauvais état moral?
Oui, moral, non, physique, on leur dit carrément qu'il ne faut pas qu'ils restent. Mais quand ils essayent de tenir moralement alors que ça a quelque chose qui ne va pas, c'est là que c'est assez grave, quoi. Je crois.
Et ça peut arriver fréquemment, ce genre d'échec grave?
J'en ai connu plusieurs cas. Le plus dramatique, c'est un prieur qui s'est suicidé parce qu'il savait plus. Il savait plus quoi faire. Mais ça, c'est le cas extrême.
Il savait plus quoi faire dans la communauté?
Il sortait bloqué. Je sais pas exactement, mais. Il s'est tiré une balle dans la tête.
À la Chartreuse.
Dans une chartreuse en Italie. Il faisait de la dépression, et, il avait été se faire soigner plusieurs fois, il était revenu, et il avait essayé de reprendre la vie. C'est difficile lorsque quelqu'un a fait profession, qui s'est engagé pour la vie, et qui se dit qu'il est vraiment engagé pour tout le temps, et de devoir se retirer. Quelqu'un qui a fait profession, bon, il a terminé son temps, il est libre, mais celui qui a fait profession, il sait quand même, il a conscience de s'être engagé, et c'est lui difficile de revenir sur cet engagement. Et quelquefois, il faudrait que les supérieurs arrivent à lui dire que, ben, malgré tout, il faudrait sortir, mais la position du supérieur n'est pas très facile non plus de dire à quelqu'un de sortir quand il s'est engagé pour la vie. Oui, il y a des cas assez dramatiques.
Du point de vue de la psychologie, c'est important. Et je pense que la personnalité du maître des novices...
Oui, c'est lui surtout qui devrait faire la sélection avant la profession. Et il y a certains noviciats en Italie, par exemple, où des maîtres des novices disaient « Oui, il est bien gentil, ça va pas très bien, mais enfin, ça s'arrangera peut-être après. » Bon, l'expérience prouve que si ça s'arrange pas pendant le noviciat, ça s'arrangera sûrement pas après. Et alors, bon, il y a certains pères qui arrive à traîner d'un monastère à l'autre, parce qu'il ne se place pas à un endroit, on est obligé de les changer de monastère. Certains en naviguent un peu toute leur vie. D'autres sortent un temps, ils reviennent, ils ressortent, ils reviennent.
Tout en étant déjà père?
Oui. Ça arrive. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? La position du grand-père n'est pas confortable non plus.
Oui, on ne peut pas le comprendre.
On ne peut pas contraindre quelqu'un qui veut sortir, lui dire non, il faut absolument rester. Et On ne peut pas lui dire non plus, c'est pas réverbère de dire aux gens, bon, ben, ça va pas aller prendre l'air. Hein.
Et qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur, quoi?
On sait pas trop ce qu'ils font.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des états particulièrement durs au bout de quelques années, par exemple, ou vers l'âge de 40 ans, je ne sais pas, qui sont...
Oui, il peut y avoir des crises. Moi, je ne suis pas resté jusqu'à l'âge de 40 ans, alors.
Oui,
je
ne
saurais pas dire. Mais...
À quel âge prennent-ils, entre guillemets, la retraite? C'est-à-dire, à quel âge prennent-ils de se libérer un peu de la règle?
Ah, ça y est, pour ça, il n'y a pas de règle.
Il
n'y
en a pas.
Non, alors, bon, il arrive que, oui, que quand ils ont des infirmités, on les dispense de l'office de nuit.
J'avais cru lire que la corvée servait quelquefois.
C'était autrefois, peut-être il y a 500 ans, parce que le climat à la Grande Chartreuse était quand même... rude, les cellules ne devaient pas être bien chauffées. Et, bon, ils avaient peut-être besoin de matériellement d'être un peu plus soignés. Mais actuellement, ça n'a plus lieu d'être. Parce que...
Et il y en a de très vieux.
Oui. Chez les pères, je sais pas quel est l'âge, mais je pense que la moyenne d'âge quand même doit être chez les prophètes doit être au moins 55 ans.
Donc il y en a qui ont dépassé 70 ans.
Ah oui. Il y a un bon nombre qui ont dépassé 70 ans.
Est-ce qu'il y a des variantes justement suivant les monastères, les différentes chartreuses, des variantes de la règle par exemple? Donc Michel disait que la Grande Chartreuse c'était plus austère, plus dur que la...
Oui, parce que en quelque sorte, ils veulent donner l'exemple. Le climat, c'est peut-être plus à l'austérité. Il y avait la Chartreuse de Mougères qui maintenant était récupérée par les sœurs de Bethléem, je crois, qui, où on mettait plutôt les pères âgés. Alors, oui, la règle était un peu moins stricte. Peut-être qu'ils... Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais je crois qu'ils n'avaient plus d'office de nuit. Peut-être qu'ils sortaient un peu plus de cellules que les autres, mais enfin, ça, on n'en parle pas beaucoup, on n'a pas beaucoup. La Grande Chartreuse, on n'a pas beaucoup d'écho de ce qui se passe ailleurs, hein, sur la Chartreuse et autonome.
Justement, là, nous avons besoin de parler de la vie et de la règle qui régit cette... Oui. Qui doit régir la vie à l'intérieur de la maison, enfin, de ces maisons. Et en premier lieu, on aurait aimé savoir quel est le véritable rapport qu'on peut entretenir avec l'extérieur. Est-ce qu'on est vraiment complètement coupé de l'extérieur quand on est prophète, quand on est moine du cloître?
Oui. D'abord, au noviciat, oui, là, c'est absolument strict. La famille a le droit, enfin, pas seulement pour le noviciat, même pour tout le monde, a le droit de venir 2 jours par an. Donc, à la Grande Chartreuse, il y a une hôtellerie extérieure où viennent les familles en été, et ils viennent 2 jours par an.
Et pendant ces 2 jours, le moine peut les rencontrer?
Oui, mais en dehors des temps des offices, il faut qu'il suive quand même les offices. C'est-à-dire le matin, pratiquement, il peut voir sa famille, les 2 jours ils sont là. Le matin, entre 10h30 et jusqu'à l'heure des vêpres, vers 4h30, tout en rentrant au monastère pour prendre son repas, parce qu'il ne prend pas le repas avec la famille. Et après les vêpres, de 5h jusqu'à 7h.
Et uniquement la famille, ou ça peut être élargi aussi?
Ah non, uniquement la famille, la famille proche.
Les parents.
Le père, la mère, les frères, les sœurs. Oui. Et éventuellement les neveux.
On ne voit plus ses amis.
Ah non.
Et que sait-on du monde quand on est novice, par exemple? Parce que vous dites qu'apparemment les novices, c'est un peu...
Les novices, bah, les nouvelles sont filtrées par le père maître, on en sait que ce qu'il veut bien dire. Moi j'ai appris au mois de mai 68 qu'il y avait quelques problèmes, il y avait des manifestations, c'est tout ce que j'en ai su. C'était assez grave, mais je n'ai pas... Mai 68, je n'ai pas connu. Je ne sais pas ce que c'est exactement, je l'ai su après. On apprend quand même pas mal de choses quand la famille vient, parce qu'on raconte un peu ce qui se passe.
Mais en 2 jours, quand même.
C'est limité, heures. Oui. Mais je pense qu'on n'a pas tellement le désir de savoir trop ce qui se passe.
Ah On a perdu la curiosité.
Oui, on n'a pas la curiosité, on n'a pas besoin d'avoir les nouvelles de 20 heures, ça c'est pas. Ça ne manque pas du tout.
Mais sans parler des nouvelles de 20 heures, ça pourrait être aussi autre chose que des événements,
oui.
Ça pourrait être l'état du monde en fait.
Oui.
On pourrait vouloir savoir.
Bah, de toute façon, on sait qu'on ne peut pas en savoir plus, alors c'est pas la peine de chercher à en savoir plus. On sait que c'est comme ça, c'est tout aussi.
C'est par la lecture non plus, pas de contact avec l'extérieur, par la lecture, ni des revues, ni des journaux, ni des.
Non.
C'est très strict à ce niveau-là.
Ah oui, il n'y a pas de revues qui circulent au noviciat, non.
Même les revues catholiques, de l'Église catholique.
Non, ça circule un peu chez les grands prophètes. Disons que les revues doivent être à la bibliothèque et ils peuvent les consulter. Mais autrement, pour les novices, non, les revues ne circulent pas.
Et quel genre de revues peut-il avoir, les moines
des revues, des informations catholiques, ou je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, parce que moi je n'ai pas franchi cette étape et je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient comme.
Et donc eux ont un certain contact avec l'extérieur, même s'il est filtré.
Oui, enfin, si on peut appeler ça un contact, oui.
Mais ils savent, en tout cas.
Enfin, la connaissance.
Ils ont des connaissances.
Oui, ils peuvent avoir un minimum de connaissances, oui. Je ne sais pas s'ils cherchent tellement eux non plus, après avoir eu 5 ans de noviciat sans chercher à avoir de contact avec l'extérieur, je ne suis pas persuadé qu'ils cherchent vraiment à savoir ce qui se passe. Et donc je crois qu'en gros, le prieur, il reçoit le journal et...